Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Trisac, la première émission de radio à la carte.
Hier, je recevais Frédéric Bastien. Vous le savez, c'est un prof d'histoire au Collège Dawson et il a porté plainte contre la juge en chef de la Cour d'appel du Québec, Mme Nicole Duval-Essler, pour dénoncer les prises de position de la juge contre la loi 21. Ce qui démontre, à ses yeux et aux yeux de plusieurs au Québec, clairement un manquement au droit de réserve. On pose la question à Maître Patrick Taillon, qui est prof titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval. Monsieur Taillon, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Donc, vous avez suivi le périple de Frédéric Bastien. Vous êtes-vous d'accord avec sa démarche?
Bien, quand on prend chaque fait isolément, il y a moyen de le mettre en contexte puis de dire que c'est pas si grave, mais quand on les met tous ensemble, il y a un effet domino, il y a un effet boule de neige. Puis là, la boule de neige, elle commence à être pas mal grosse. Donc, effectivement, il y a un problème. Puis le standard ici qui s'applique, c'est pas de savoir si la juge était biaisée. C'est de savoir si une personne raisonnable, une personne raisonnable dans le dossier de la loi 21, j'imagine que ça dépend d'un opposant ou quelqu'un qui soutient la loi 21, mais par rapport à des faits qui le concernent. Mais est-ce que cette personne raisonnable, elle trouve ou non qu'il y a une apparence d'impartialité? Donc, il y a un comportement idéal qui est attendu à l'endroit de la juge, un devoir de retenue qui s'impose à elle. Et est-ce que les apparences sont saufs. Donc, moi, je ne peux pas me mettre dans la tête de la juge, mais je regarde les apparences et clairement, on voit que ce n'est pas le comportement idéal là, pour un dossier aussi délicat. On pourrait s'attendre à mieux.
Maître Taillon, vous parlez d'apparence. Pour en droit, à quel point les apparences, c'est important?
Bien, sur ces questions-là, de savoir si le tribunal est indépendant, est impartial, c'est ça le standard. C'est pas de savoir si, en vérité, la juge était biaisée, c'est de savoir si les apparences d'impartialité sont saufs. Et là, on le voit, là, c'est plusieurs faits. Au début, à la fin août, il y a eu une conférence préparatoire. Normalement, on dans ces réunions-là, on parle de la date du procès, du temps que ça va prendre, de l'audition. On discute de choses très organisationnelles. Elle est arrivée à ce moment-là, puis elle a dit, « Oh, il y a des arguments qui ont jamais été plaidés en première instance. J'aimerais ça vous entendre. » Elle s'est mise à conseiller à l'une des parties des arguments nouveaux, si je peux dire. Donc, déjà là, ça envoyait un signal. Moi, je dois l'avouer, là, j'ai supporté la loi 21 en commission parlementaire, donc peut-être que je ne suis pas la personne raisonnable, peut-être que je suis moi-même plus sensible, mais déjà à ce moment-là, c'était louche. Là. Puis on en parlait un peu, certains collègues, on voyait bien qu'elle pouvait même un peu nuire à la cause de ceux qui contestaient si elle prenait le dossier trop à cœur, mais c'est pas tout, on l'a vu avec l'audition.
Attendez, Maître Taillon, attendez, vous allez trop vite. Ce que vous venez de dire là, c'est la référence que Frédéric Bastien expliquait, c'est que la juge Duval-Essler suggérait à la partie plaignante l'article 28 de la Charte.
Oui.
Et effectivement, après, ils se sont présentés avec des arguments à l'appui de l'article 28 de la Charte.
C'est ça. Et normalement, le rôle d'une cour d'appel, c'est de faire le procès de ce que le juge de première instance a fait. Donc, la question qui se pose en cour d'appel, c'est est-ce qu'il y a une erreur dans le raisonnement du juge? C'est pas de refaire à nouveau le dossier. C'est normal, là, les juges n'ont pas à être complètement passifs. À une certaine époque, on exigeait là, qu'ils soient un peu comme des sphinx, mais ça, c'est terminé. Les juges ont le droit de poser des questions, soulever certains arguments. Mais de là à...
Mais en cours...
à introduire un nouveau débat qui n'a jamais été amené en première instance, c'est un peu gros. Et ça, c'est ce qui s'est passé à la fin août. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière est venu un peu ajouter à tout ça. Et même, il y a des événements à venir. C'est ça qui est un peu sans précédent, parce que normalement, dans des affaires d'impartialité, manque de retenue, souvent, ce sont pour des faits passés. Donc, un juge va arriver et va dire, moi, j'ai déjà travaillé pour le cabinet de l'une des parties. J'ai travaillé là pendant 20 ans. J'ai été associé. Est-ce que que ça vous dérange? Est-ce que je dois me récuser? Donc, c'est souvent le passé qui amène un juge à se récuser. Mais là, on a des événements futurs. Donc, une juge qui s'est engagée à aller prononcer une conférence devant un groupe qui a pris position contre la loi en commission parlementaire, qui s'apprête peut-être même à intervenir dans le forum judiciaire éventuellement, il faudrait vérifier auprès d'eux, mais un groupe qui est clairement engagé dans le débat, elle s'en va là pour faire un discours qui est dans le cadre d'un événement bénéfice, c'est pas l'idéal. Donc, j'imagine que si elle avait été donnée une conférence au mouvement laïque des Québécois, si elle avait été donnée une conférence à la Société Saint-Jean-Baptiste, les opposants à la loi 21 diraient « Hey, c'est pas approprié ce genre d'intervention-là. » Là, c'est un petit peu normal qu'une personne raisonnable qui soutient le projet de loi 21 dise « Comment ça se fait qu'elle va prendre la parole chez les opposants? » Ça manque de retenue.
Excusez-moi, là, je veux juste vous suivre. Ça, c'est le Lord Reading, là, l'organisation de juristes. Ça va avoir lieu le 10 décembre. Tantôt, Maître Traillon, vous avez fait référence à la semaine dernière. La semaine dernière, c'est quand elle a pris la parole, la juge Duval-Lesler, pour dire que les gens qui avaient des allergies visuelles aux signes religieux, que finalement, c'est ce qu'elle dénonçait aussi, ce que Frédéric Bastien a relevé. Ça non plus, c'est pas une grande impartialité.
Donc, durant l'audition de la semaine dernière, où là, on discutait du fond des choses par rapport à la possibilité de suspendre ou non le projet de loi 21. Puis, au fond, le débat, c'est de savoir si la dérogation, là, ça produit des effets ou si les juges ont le droit là, de contrôler une loi, même s'il y a une dérogation à la Charte canadienne dans cette loi-là. Et là, elle a fait plusieurs commentaires. Moi, celui que j'ai trouvé le plus blessant, c'est quand elle a dit que les gens qui supportent la loi 21 ont des problèmes là, de déficience visuelle, là, comme s'ils étaient malades. Je pense que ça, c'est un peu méprisant. C'est normal qu'un juge, de nos jours, brasse un peu les plaideurs. Un peu comme un bon intervieweur là, va poser des questions difficiles. Vous connaissez un peu la formule. Sauf qu'il ne faut pas non plus tomber dans une ligne là, où le juge, à force de poser des questions, il y a une différence entre poser des questions de droit difficiles à celui qui plaide et démontrer du mépris à l'endroit de ses positions. Moi, je ne suis pas la personne raisonnable, mais je trouve que sous-entendre qu'il y a un handicap visuel chez les personnes qui soutiennent la loi 21, ce n'était pas vraiment approprié.
Oui, une allergie visuelle. Ce qu'elle a dit, hier, Maître Taillon, j'ai entendu le doyen de l'Université McGill, Robert Leckie, à CBC, appuyer la juge Duval-Lesler, puis dire que c'est qu'il était étonné de voir qu'on reprochait à une juge de prendre la part des droits fondamentaux et la Charte des droits, et que les juges ont le droit de poser des questions pendant... during a hearing, pendant une audition, puis que c'est leur rôle de jouer à l'avocat du diable. Mais là, on parle pas de ça, là, on parle de la juge qui va en conférence et qui prend position publiquement.
C'est ça, c'est une question de degré. Donc je comprends, mon collègue Robert Leckie, il a aussi sur le fond des choses des positions, ce ne sont pas les mêmes que les miennes, donc peut-être ça l'amène à être plus indulgent envers la juge, c'est une chose, mais en bout de ligne, pour regarder ça objectivement, il faut aussi se mettre dans la peau de l'autre partie. Donc intervenir devant l'organisme Lord Reading qui est contre la loi 21, c'est une chose, mais pour avoir la mesure, peut-être que M. Leckie devrait se demander qu'est-ce qu'il penserait d'une intervention devant un groupe qui, lui, supporterait la loi 21. J'ai l'impression que ce serait pas tout à fait le même point de vue. Donc, il faut vraiment regarder un peu les deux côtés de la médaille. Puis, il y a toutes sortes de choses qui sont parfaitement légales. Je vous donne un exemple. La même juge, dans un dossier récent, le renvoi sur la discrimination génétique, elle a confié, c'est plutôt exceptionnel, un mandat d'amis de la Cour, d'amicus curiae, à la même avocate qui plaide dans le dossier de la loi 21. Il n'y a rien de mal à ça. L'avocate est ultra compétente. Ça permet de représenter un point de vue qui était un peu absent dans ce litige-là. Sauf que dans la vraie vie, ce mandat-là, ça contribue à enrichir le cabinet d'avocats en question. Et c'est le genre d'information pertinente quand on veut être exemplaire, de dire, en passant, moi, je veux juste dire à tout le monde que dans un autre dossier, j'ai confié un mandat à Maître Redco. C'était concernant tel sujet. Est-ce que ça vous pose problème? Est-ce que vous préférez qu'il y ait un autre juge, que je me récuse? Ça, c'est la bonne façon de faire les choses. Or, à ma connaissance, j'ai essayé de fouiller la question, on n'en a jamais parlé. Et c'est un peu problématique. C'est tous des petits faits qui, pris isolément, peuvent peut-être être justifiés, mais quand on les met ensemble, je pense clairement que là, on a affaire à une juge qui clairement dépassé là, son devoir de retenue. Puis je suis pas le seul à dire, l'ancien ministre Benoît Pelletier le disait dans les pages de la Presse Plus aujourd'hui. Certains de mes collègues le disent aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ultimement, c'est le Conseil de la magistrature qui va trancher de cette question-là, mais il y a quand même une question sérieuse derrière cette plainte.
Mais là, en conclusion, M. Taillon, là, est-ce qu'il faut comprendre, là, nous, là, la plèbe, là, la masse, là, est-ce qu'on doit comprendre que le droit de réserve là, pour les juges, c'est à taux variable? Ben, dans le sens que souvent, on a voulu parler à des juges pour comprendre des décisions qui portaient sur d'autres causes, sur la violence conjugale, sur des, tu sais, sur des sentences. Et là, tout à coup, on nous passe dans le visage l'obligation de garder un droit de réserve. Mais dans certains cas, on y va allègrement, puis on se prononce contre une loi, comme dans ce cas-là, la loi 21.
Les juges sont un contre-pouvoir très important, puis depuis qu'ils ont adopté la charte canadienne, puis bon, les chartes en général, ils ont un pouvoir considérable, puis c'est important que dans l'exercice de ce pouvoir-là, justement, qu'ils fassent preuve d'une attitude exemplaire, parce que sinon, ils prêtent flanc à la critique. D'une certaine manière, là, la juge en chef, elle dessert sa cause, là, parce que si elle souhaite tant la défense de la liberté de religion, du multiculturalisme et de lutter contre l'utilisation de la dérogation, ben, en ayant trop mis dans ses interventions, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, au fond, prêter flanc à une critique pour dire, regardez, ça marche pas, ce système-là. Donc, c'est important que les juges aient un comportement exemplaire pour, justement, la justice n'est pas parfaite, elle n'a pas à être parfaite, puis elle l'est surtout pas. Moi, j'aimerais ça que les médias passent plus de temps à surveiller ce qui se passe au palais de justice, puis je pense que les juges sont pas à l'abri de la critique. Ils doivent être critiqués, ils exercent un pouvoir important. C'est pas des intouchables là, dans notre société.
Non, mais vous voyez, je parle.
Pouvoir important.
J'en parlais dans le cas, là, je juste prendre 30 secondes là-dessus, là, oui. Sur le cas de la petite fille de Granby qui a été retournée chez elle après la décision de deux juges. Et ces deux juges-là n'ont jamais rendu de compte à qui que ce soit. Cette petite fille-là est décédée aujourd'hui.
Oui, absolument. Mais s'ils commencent à commenter leur décision, ça va justement les amener dans une spirale où, comme la juge en chef en ce moment, ils vont commencer à laisser transparaître des biais. Trop de déclarations vont les empêcher de bien faire leur travail. C'est pas un système parfait, mais la logique du système, c'est de faire preuve de réserve. Et si on faisait une exception pour un dossier aussi terrible que celui de la petite fille à Granby dont vous parlez, ben, les juges en question pourraient se mettre dans une situation délicate.
Je comprends. En conclusion, la juge Duval-Essler doit se récuser, Maître Taillon?
Ben, elle aurait dû, dès le départ, là, dire un certain nombre de choses, comme le fait qu'elle avait déjà confié un mandat à l'une des parties. Elle aurait dû elle-même parler de la conférence. Il faut pas oublier qu'elle est juge en chef. Hein. C'est elle qui décide qui sont les juges qui entendent l'affaire. C'est pas une juge comme les autres. Donc, elle aurait pu très bien dire, si je tiens à donner cette conférence, alors je vais envoyer un autre juge trancher cette affaire-là. Je peux pas faire les deux en même temps. Donc, elle aurait dû, il y a bien longtemps, faire les choix qui s'imposent. En ce moment, le meilleur geste qu'elle pourrait faire pour préserver son institution, là, dont elle est la gardienne, ce serait évidemment de se récuser de son propre chef. Mais la plainte de Frédéric Bastien ne peut pas la forcer à se récuser. C'est seulement les parties qui sont dans le litige qui pourraient déposer une requête. Le processus de plainte qui a été déposé, c'est plus au fond comme, pas comme une plainte chez l'ombudsman, mais au fond c'est une plainte déontologique. C'est pour voir si elle a bien fait son travail, lui taper sur les doigts s'il y a lieu, mais ça va pas avoir pour effet de la récuser. Seules les parties au litige ou elle-même pourraient décider qu'elle doit s'éloigner de cette affaire.
Très bien, Maître Patrick Taillon de l'Université Laval. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.